Explore, un podcast de l'Église évangélique réformée de Suisse pour découvrir l'Église qui arrive et un monde transformé par la foi.
Bonjour, bonjour et bonjour. Bienvenue à vous tous et toutes pour ce 11e épisode de la saison 2 d'Explore où je suis toujours avec Sophie, Dimitri pour discuter de cette foi chrétienne qui nous habite et dont nous avons déjà amplement discuté maintenant pendant ces derniers épisodes. On se rapproche gentiment de la fin, et on sent que les thèmes qu'on aborde nous orientent aussi plus à la limite de ce qu'on arrive à dire. La dernière fois, on a directement abordé la question de la limite de la foi, et cette fois, on va aborder le gros mot de Dieu, voilà ce mot qui nous aide et qui nous embête parfois aussi, et ce sera toi, Sophie, qui va nous proposer une impulsion de départ pour notre discussion.
Je trouve intéressant qu'on dise « Ah, mais en fait, Dieu, c'est un gros mot. Je plus sois un petit peu à cette notion-là, dans le sens où, effectivement, c'est un mot qui est chargé. C'est un mot qui a une histoire, c'est un mot qui peut faire peur. Et puis, je pensais à deux situations pour l'illustrer un petit peu. C'est toute la question des formules passives qu'on utilise. Moi, j'entends parfois dans le langage courant des expressions qu'on peut dire « Ah, mais... on demande la bénédiction de quelque chose, mais on ne va jamais demander Dieu en particulier, où on est dans une espèce d'assainissement d'une pensée religieuse qu'on va atténuer dans le langage courant. Je pensais à la bénédiction en particulier, mais ça pourrait être sur des questions de... On invoque le ciel, le destin, la destinée, etc. Avec des réflexes très très religieux, mais en même temps on va dire « Ah non, je crois absolument pas en Dieu » ou ce genre de questions-là. C'est un peu comme si on était hanté par quelque chose de plus grand que nous. Et à l'inverse, on a aussi cette peur souvent... d'utiliser le mot Dieu ou de... Moi, des fois, en tant que pasteur, je suscite la question, hein, parce que je dis mon métier, et puis, du coup, derrière moi, il y a Dieu, quoi. Et les gens sentent ça, et ça questionne, et ça interroge. Et finalement, de se dire, mais souvent, ce avec quoi je dois composer, c'est des gens qui projettent une certaine image de Dieu. Et moi, j'en étais là aussi un temps. Hein. Moi, je disais que c'était du gros n'importe quoi, les histoires chrétiennes, toutes ces questions liées à Dieu, etc. Et je pensais à un épisode qui m'est arrivé dernièrement, où, dans un moment où j'étais pas du tout disponible à ça, quelqu'un m'a interpellée en disant « Ouais, tu sais, moi... les questions d'église, de Dieu, tout ça, ça me dérange parce que tu vois, tout ce qu'on a dit sur Dieu et puis les affaires d'abus dans l'église, je comprends pas qu'on puisse utiliser ce mot-là et abuser d'enfants. Et voilà, le mot Dieu, ça suscite ce genre de choses-là, ce genre de discussion-là. Et là, j'ai été... désemparée de répondre parce que j'avais pas beaucoup de temps, parce que je pouvais pas juste m'asseoir et dire viens en cause, aussi parce qu'on m'a interpellée sur ces questions-là dans un contexte qui était pas tout à fait propice à ça. Mais finalement, ma seule réponse, ça a été de dire mais tu sais, moi aussi, je dois faire avec ça. Je dois faire avec une histoire religieuse qui est pleine de violence. Je dois faire avec ce mot qui suscite parfois plus l'idée d'un juge que la force de vie que j'ai l'impression qui m'habite et de ce désir-là de construire quelque chose à partir d'une entité qui serait vierge de toutes ces projections humaines qu'on en fait. Et je pense qu'une partie du débat très réformé autour de la question de... Parce que dans l'Église réformée, on a un petit peu cette tendance à vouloir tout réinventer au niveau du langage, de la manière de parler justement des réalités spirituelles, de parler et de se défaire de ces mots de la tradition et de réinventer nos liturgies, etc. Et je pense que pour une part, cette envie-là, si c'est pour être plus connecté avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça a entièrement du sens. Et en même temps, est-ce qu'on peut faire complètement l'abstraction d'une part de l'histoire de notre vocabulaire et d'autre part de certains mots comme celui de Dieu? Et voilà, moi, ce que je fais souvent dans les cas comme ceux que je décrivais, c'est de m'asseoir avec la personne et de dire « Mais parle-moi du Dieu auquel tu ne crois pas. » Et finalement, souvent, ce qui se passe, c'est de dire « Mais moi non plus, je ne crois pas dans ce Dieu-là, en fait. » Et j'ai aimé le titre de l'épisode « Dieu inacceptable » avec le « in » entre parenthèses, parce que finalement, je me questionne de savoir est-ce qu'au fond, dans notre projection qu'on fait de ce Dieu qu'on a construit, ce Dieu juge, ce Dieu père de famille toxique, est-ce que finalement on n'a pas projeté beaucoup de notre humanité? Et est-ce que c'est pas au fond parce qu'on est incapable d'accepter nous-mêmes l'idée d'une entité qui serait pur amour, pure justice, pure liberté? Et je me dis que ça dit beaucoup de nous, en fait, ce questionnement-là, ou cette incapacité-là. Donc, finalement, plus que l'idée de Dieu qui serait inacceptable, moi, je vois plutôt l'humanité qui a de la peine à s'accepter elle-même. Et peut-être qu'on rejoint la pensée aussi de Paul Tillich, ce théologien allemand qui a aussi évolué dans la sphère anglo-saxonne, qui parlait de la foi comme du fait d'accepter, d'être radicalement accepté aussi dans ce qu'on a d'inacceptable. Voilà, donc de renverser un petit peu la perspective sur ce Dieu qu'on n'arriverait pas à accepter, quoi. Voilà pour mon impulsion que j'ouvre à vos intuitions.
Merci beaucoup, Sophie. Je me pose la question de quoi tu parles. Parce que, bon, non, mais on a parlé de... Tu as parlé du mot, tu as parlé de ce qui suscite, tu as parlé des questions d'héritage auxquelles on n'échappe pas, tu as parlé de ça aussi, auxquelles on n'échappe pas, mais face auxquelles on n'est pas non plus complètement identifié. Enfin, je dis, on n'y échappe pas, mais on peut se positionner. Hein. On peut être face aux héritages, on peut peut-être essayer d'en faire quelque chose. Et tu ne renonces pas à en parler quand même. On aurait pu prendre l'option de tout bazarder, tu vois.
C'est ça. Moi, mon choix, ça a été de dire... non, moi, je pense que c'est une erreur de tout bazarder. Ah. D'une part, parce que une partie des problèmes que l'Occident connaît actuellement, à mon avis, sont dus à une espèce de peut-être de non-acceptation de notre propre histoire ou de mauvaise négociation du rapport qu'on a à notre propre histoire. Et que du coup, il ne faut pas renoncer à continuer à avoir un rapport avec cette histoire-là, à continuer à dialoguer avec ça. Et aussi parce que je pense qu'il y a des trésors dans cette tradition chrétienne qui appelle Dieu, Dieu.
Comment c'est autre chose? Alors j'entends tout à fait que, en gros, on peut continuer à faire notre psychanalyse et puis qu'on trouvera des ressources dans le passé pour avancer dans la psychanalyse. En quoi c'est autre chose, cette fameuse critique Ludwig Feuerbach, là, vous irez voir sur Wikipédia, il y a tout ce qu'il faut à ce sujet, mais sur cette idée, d'accord, très bien, on a ce mot qui est une surface de projection pour tout ce qu'on n'arrive pas, pour tous ces aspects sur lesquels on échoue. Donc Dieu, c'est celui qui arrive là où nous, on n'y arrive pas. Et je me posais la question à quel point il n'y avait pas de ça derrière ce que tu as dit sur... qu'est-ce que ça dit de nous qui ne nous acceptons pas nous-mêmes par rapport en refusant l'idée d'un Dieu qui est pur amour, pure justice, pure, etc., etc. Bon, voilà, très bien. J'ai un catalyseur pour toute cette dynamique voilà, d'histoire personnelle, de génération, de civilisation qui doit en découdre avec ses propres... ses propres errances. Mais en quoi tu me parles de Dieu ? Parle pas de... Enfin, à nouveau, je pourrais... Est-ce que je n'aurais pas meilleur temps de me débarrasser de ça, du coup ? Dimitri, tu as levé le doigt. Enfin,
non. Ouais, vas-y.
Une des raisons pour laquelle je ne peux pas m'en débarrasser, c'est que je reconnais dans ma vie quelque chose de l'ordre de cette présence que j'appelle la présence de Dieu. Mm-hmm. C'est que malgré moi, je pense que je peux le dire... malgré moi, ou malgré une part de moi, il y a dans mon âme, dans mon cœur, dans mes entrailles, quelque chose qui me souffle le nom de Dieu.
Je prends des notes, c'est joli comme
dans ma rationalité aussi, donc dans mon cerveau.
J'aimerais réagir à aussi ta présentation, puis à ce que tu viens de dire. Je pense qu'il y a une très bonne articulation dans ce que tu as dit entre l'idée qu'il y ait des contestations par rapport au fait que comment on peut adhérer à Dieu, en tout cas suivre ce chemin-là de foi, et puis en fait commettre des exactions, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire qu'en fait, il y a déjà une forte attente de l'extérieur qu'il y aurait quelque chose qui transformerait la personne sur le plan éthique.
Et oui, parce qu'on l'a prétendu aussi, hein, qu'elle existait, cette transformation.
Bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un appel, en tout cas, mm-hmm. à une perfection morale. Et en fait, évidemment, alors, indépendamment des crimes, hein, qui sont vraiment, alors là, pour le coup, pénales et qui sont dans un registre, voilà, bien sûr, du...
Enfin, aujourd'hui, ils le sont, mais oui.
Aujourd'hui, ils le sont, et tant mieux. Mais l'idée, c'est que... et c'est nécessaire, mais l'idée, c'est qu'au fond, personne, quelque part, à ce moment-là, n'est vraiment... à la hauteur, et en fait ça expose même de manière plus dramatique les déficiences de l'humain. Et en fait, je pense que la difficulté, c'est que même, c'est qu'en fait, autant renoncer à ça, puisque l'exigence qui est projetée est si, si forte mm-hmm. du point de vue de l'appel de Dieu, au fond me dire, de toute façon, les personnes qui y adhèrent ne sont pas parfaites, mm-hmm. pourquoi moi je me soumettrais quelque part à ce jugement et pourquoi je serais exposé moi-même à l'imperfection au vu de la demande, on va dire. Je pense que ça rejoint après ce que tu dis, c'est que finalement, être dans cette relation, m'inscrire dans cette relation, creuse ce sentiment d'imperfection ou d'indignité quelque part que je pourrais avoir dans cette relation, de disproportion qu'on a dans cette relation. Et l'enjeu n'est pas tant... d'accepter un Dieu inacceptable que de juger Dieu. Il ne s'agit pas de juger Dieu à l'aune de ce que font les humains, mais effectivement accepter que la condition humaine, ma condition humaine, en fait, l'accepter l'inacceptable, c'est accepter l'humain que je suis avec ses défaillances. C'est pas des traits de caractère ou des, quelque chose qui aurait trait à au fait, ah, je suis inacceptable parce que j'aurais une tendance à faire telle ou telle chose, ou parce que je me jugerais moi-même. Mm-hmm. C'est qu'en fait, je n'adhère pas pleinement à la condition humaine, et je pense là, il y a une opportunité aussi dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, étrangement, c'est néanmoins dans cette relation que nous découvrons à quel point nous sommes faillibles. On peut, c'est un paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait, l'exigence d'infaillibilité qui peut se poser du point de vue de l'extérieur, aux chrétiens, c'est quelque chose qui pèse sur l'ensemble de la société.
Mmh.
C'est juste que là, les chrétiens, ben, en fait, ils ont une sorte de jauge de perfectabilité qui est encore plus élevée. Mais en fait, je pense que c'est la difficulté, effectivement, pour tout humain de s'accepter, et en l'occurrence, sans cette relation...
Quelle relation ?
Justement, cette relation à Dieu, en l'occurrence, ça peut paraître plus, à mon sens, plus compliqué, on va dire. Plus compliqué, mais existentiellement, je dis pas que ce serait plus...
Bah, je suis seul face à un trou, enfin...
C'est ça, c'est qu'en fait...
C'est
comme si on devait supprimer la question. Ça voudrait dire qu'à ce moment-là, il y aurait des gens qui sont justes et des autres qui sont pas justes. Et puis qu'en fait, on tomberait sur une évaluation morale de l'ensemble de la société. Et qu'en fait, on penserait plus en creux la condition humaine faillible elle-même. Le problème pour nous, de manière générale, c'est que des gens soient capables du mal. Parce qu'on pourrait se dire, mais nous, mais en l'occurrence, cette condition humaine, elle est partagée malgré tout, y compris le mal que malheureusement d'autres commettent.
Et celui qu'on commet nous-mêmes,
c'est ça.
Qu'on c'est... désire pas,
exactement,
qu'on ne fait
pas
quand même.
Forcément faire.
Paul,
tout à fait. Et en fait, on aimerait se défaire de cette... Il y aurait une propension à vouloir se défaire en disant, voilà, en fait, nous, ça ne nous concerne pas. C'est le fait de certaines personnes. Et on a l'impression qu'effectivement, le chrétien, dans cette dynamique-là, en fait, est soumis à un double jugement. Et en fait, si on veut éviter cette relation à Dieu, c'est aussi une manière d'éviter... parce que vraiment, il y a aussi quelque chose qui nous accuse, malgré tout. C'est pour ça qu'il y a cette dimension du pardon des péchés, hein, dans la liturgie. Mmh. C'est parce que nous sommes conscients de notre faillibilité, qu'à tout moment nous sommes potentiellement, et parfois à corps défendant, voilà, nous avons peut-être fait quelque chose, voilà, blessé, ou dit des choses qui ne sont pas... Voilà, et malgré nous, en fait, il arrive des choses, nous ne sommes pas en pleine possession de nous-mêmes, et c'est pourquoi nous demandons pardon. Et c'est vrai que ça met quelque chose en creux dans l'investissement que nous avons nous-mêmes et de notre condition, je pense. La culpabilité, les nécessités de réconcilier, de pardonner n'ont pas disparu d'ailleurs dans une société qui est sécularisée. Et il y a encore ce besoin-là. Mais il se fait avec une autre intensité et dans des logiques, on va dire, plus économiques, ça veut dire d'équilibre. Alors que du côté du christianisme, il y a l'idée qu'il y a un pardon absolu possible, qui n'est pas sujet au rétablissement de bonnes relations entre voisinages.
Ouais, vraiment, double peine, hein, du coup, parce que ce que tu viens de dire, c'est à la fois, ça paraît une ouverture, mais en même temps, on voit bien qu'on est enfermé. Ce que cette ouverture a généré, on voit ce qu'elle a généré de douloureux dans notre histoire, et du coup, on n'est même plus capable d'entendre ça. Il me semble, c'est bien ça où je dis double peine, parce que on pourra redire, et encore redire ce que tu viens de dire, c'est pas audible. Parce que, même pour nous, au fond, on dira, oui, mais c'est quoi cette anthropologie négative ? Où de toute façon, l'être humain n'est jamais capable de quelque chose de bon, justement, qui nous a mené sur les pires pentes de notre civilisation en termes de redressement, d'éducation mortifère. Enfin, tu peux encore...
Quelqu'un m'a dit ça dernièrement.
Tout un tas de trucs. et c'est juste, je veux entendre la réelle potentialité qu'il y a dans ce que tu dis, Dimitri, mais je ne peux pas. Il y a quelque chose qui ne peut pas. Enfin, peut-être que je joue dire. Quelque chose. J'ai envie de l'entendre, et en même temps, je remarque qu'il y a vraiment quelque chose qui se rebiffe à ça. Peut-être que ça se joue aussi dans le rapport à la puissance de ce nom de Dieu. C'est quoi comme puissance qui vient intervenir dans l'abéance ? C'est quoi cette puissance qui peut intervenir là où il y a tout d'un coup un trou ? Alors le trou, toi tu l'as dit en termes de morale et en termes d'existentiel. Alors soit je le comble en égalisant complètement les rapports et en me mettant dans le camp du juste ou de différentes manières, soit je m'abîme dans ce trou mais je fais plus rien parce que je suis paralysé par ce qu'il génère. Ou alors je le comble avec Dieu, mais avec un Dieu qui devient... voilà, enfin, je sais qu'il est tricoté, je sais qu'il est là pour...
Je suis pas d'accord. C'est pas nous qui le comblons.
Je vais continuer.
Merci.
mais quand même, je pourrais me dire, c'est ça, je l'utilise de manière compensatoire, la béquille. Mais du coup, c'est une redécouverte, là, au milieu, pour moi, en tout cas, où ce que je cherche à voir, c'est justement cette... Du coup, c'est quoi cette force du nom de Dieu, nom, N-O-M, peut-être du nom aussi, mais enfin là, la force du nom de Dieu, qui me sort de cet état un peu de paralysie ou de scepticisme constant sur ce qui pourrait en fait m'amener à vivre de manière épanouie et bonne ici. Enfin, moi, c'est ça, ce que je viens de décrire, c'est une espèce d'état de paralysie totale où, au fond... Je suis tellement à bout de cette idée d'un Dieu qui me permet en fait de m'accomplir que je n'ai plus rien qui me reste à part voilà, tu as parlé je crois de l'hédonisme dans l'épisode précédent, enfin, il y a quelque chose de très paralysant cette situation, et du coup comment sortir de la paralysie pour moi sans justement réinsérer le levier qui n'a pas marché, qui est on va y aller un peu plus fort simplement, on va débloquer la situation en y mettant toute la puissance qu'on peut mettre, notamment la toute puissance de Dieu. Et là, je trouve que ce que tu... Quand même, cette phrase, elle est chouette. Quelque chose qui souffle le nom de Dieu en moi. C'est quoi la puissance d'un souffle? Et cette phrase, comment est-ce qu'on peut la comprendre? Quelque chose qui souffle le nom de Dieu. Soit le nom de Dieu, c'est-à-dire quelque chose me dit Dieu, 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 Dieu. Je crois pas que c'est ça. Le nom, tu l'as pas dit. Le nom de Dieu, tu ne l'as pas dit. Tu dis, il y a quelque chose qui souffle le nom de Dieu en moi. Le nom, tu ne l'as pas dit. Il y a bien un nom. Mais tu ne l'as pas dit. Et j'aimerais savoir quelle est cette force.
Je vais juste dire un truc avant que Sophie réagisse à ton résumé provoquant. parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans ce que tu as dit.
Oui, j'ai.
Ouais. Et je pense qu'on peut te répondre en te disant qu'il y a quand même une ambivalence de Dieu. Dont le Dieu est inacceptable. Il y a quelque chose d'inacceptable en Dieu. Et peut-être qu'à un moment donné, on dit « Oui, mais moi aussi, je ne crois pas en ce Dieu-là. » Et en fait, entre ce qui est acceptable et pas acceptable, il y a aussi tout le poids des choix que nous faisons dans notre vie. Et c'est vrai qu'il y a un système forcément projectif. On ne peut pas échapper à sa propre lecture. Alors, c'est pas du Feuerbach au sens où, justement, ce serait incapacitant. C'est-à-dire qu'au fond, Dieu serait l'émanation de tout notre potentiel, voilà, qu'on n'aurait pas pleinement manifesté. Mais là, en l'occurrence, il y a quelque chose d'inacceptable, et ça a été tellement important, cette inacceptabilité de Dieu, qu'on a eu droit à pas mal de solutions théologiques, je pense déjà à la gnose, qui ne pouvait pas accepter que Dieu, de l'Ancien Testament, puisse être le même que celui qui a suivi Jésus, qui s'est incarné en Christ. Donc du coup, la part d'inacceptabilité renvoie à des éléments peut-être propres dans notre tradition, que ce soit communautaire ou individuelle, des choses dont j'aimerais me libérer. Donc il y a quelque chose dont qu'on aimerait dépasser. Et pourtant, Dieu, entre la part des choses, entre ce qui est acceptable de lui ou est inacceptable, il y a quand même l'idée que Dieu est méconnaissable. Il y a le Deus absconditus aussi. Et c'est vrai que très classiquement, on pense toujours au renforcement la fermeture du cœur de Pharaon, là. Vraiment de manière complètement absurde. Il n'y a vraiment strictement aucune raison pour que Dieu, tout à coup, intervienne directement sur Pharaon pour qu'il ne laisse pas sortir les Hébreux d'Égypte.
Il faut rappeler le setting. Hein,
dans le récit de l'Exode.
Récit de l'Exode, exactement.
Donc le peuple hébreu est en Égypte, il est en esclavage sous la domination du Pharaon. Il y aurait une opportunité que de lui-même, Pharaon, libère ce peuple, au fond. Et non, c'est Dieu
qui endurcit le cœur de Pharaon.
Parce qu'à la fois, il aide Moïse à performer des miracles, justement, pour intimider Pharaon. Ouais. Et après, de l'autre côté, il endurcit le cœur de Pharaon, donc il les met dans une forme d'impasse. Ouais. Et ça a vraiment Voilà, c'était un problème hérité. Ça a été d'ailleurs l'origine des grandes discussions sur le libre arbitre, sommes-nous libres ou pas. Et c'est vrai que là, il y a quelque chose qui reste fondamentalement inacceptable de la part de Dieu. C'est peut-être une position.
Qu'est-ce que tu fous, quoi? Enfin,
bah, disons que là, il y a un moment donné où c'est inacceptable, mais c'est quand même Dieu. Et peut-être que ça renvoie au fait que il y a plein de choses inacceptables dans nos vies. Alors, bien sûr, on peut pas poser un supranaturalisme comme s'il y avait une intervention directe. C'est pas ça que je présuppose, mais il y a l'idée que il y a aussi un chemin de l'inacceptable au cœur même de nos existences.
Mais tu vois ce que tu peux justifier en disant ça.
Mais je suis entièrement d'accord avec toi.
Mais malheureusement, ça ne justifie rien. Ça ne justifie rien.
Non, c'est ça qu'il faut dire.
Mais non, mais c'est pas pour justifier le mal ou quoi que ce soit. Enfin, absolument pas. C'est qu'en fait, est-ce que nous aimerions l'émergence d'un royaume? En fait, est-ce qu'on est vraiment dans un militantisme du royaume qui voudrait que tout le monde devienne parfait? Et puis peut-être que ce serait une forme de totalitarisme, en fait, que cette société qui serait... Parce qu'au fond, il faudrait des règles, il faudrait des normes, il faudrait un encadrement digne de ce nom. Ouais. Et je pense pas que les totalitarismes étaient aussi destructeurs ont-ils été. Si on pense au totalitarisme communiste, c'était quand même quelque chose qui se voulait assez humaniste à la base.
Ouais. C'est toujours destructeur de ce que ça exclut.
C'est exactement. Ça, c'est ça que... Et du coup, j'ai l'impression que c'est là aussi une forme de déprise non justificatrice qui reste... Enfin, il y a quelque chose qui va rester inacceptable, en fait. C'est pas un processus d'acceptabilité de ce que Dieu aurait d'inacceptable ou de ce que le monde aurait aussi d'inacceptable. Ça reste inacceptable. Il y aura quelque chose qui nous résistera aussi dans ce que je suis capable d'accueillir de Dieu ou pas. Et là, en l'occurrence, je pense que l'exemple du pharaon est assez spectaculaire, en fait, montre bien cette étrangeté que Dieu aussi peut avoir dans ses desseins.
Oui, la mort des premiers-nés. Moi, je pense tout le temps à cette scène dans Le Prince d'Égypte, le dessin animé. Ouais. J'ai toujours trouvé ça incroyable que la scène des premiers-nés d'Égypte, de la mort des premiers-nés d'Égypte, qui est par ailleurs terrifiante. Vraiment, le sound design est vraiment incroyable et tout.
Ouais.
Existe dans une histoire, parce que en fait finalement il n'y a pas ou peu dans cette histoire là dans cette représentation de cette histoire d'édulcoration du fait qu'en fait c'est Dieu qui envoie la maladie, la peste, c'est un espèce d'esprit en plus, enfin
c'est de fumée qui se balade là,
exactement.
Qui rampe en plus le long des maisons, enfin
exactement, c'est vraiment glaçant. Et en fait, si tu prends l'histoire, c'est Dieu qui envoie ça. Et moi, j'ai toujours trouvé ça assez fascinant. Et finalement, aussi, quelque part, ça dit aussi toute la radicalité d'une certaine forme d'altérité qui existe entre nous et Dieu aussi, j'ai l'impression, avec quelque chose qu'on ne connaîtra pas ni de son dessein... de son intention, et qui dit aussi le côté vertigineux du... Et qui nous parle, en fait, finalement aussi du tragique de l'existence. Et en ce sens-là, je te rejoins tout à fait, Dimitri, d'aussi... C'est pas une force de justification morale. Moi, d'ailleurs, quand les gens me disent... pourquoi est-ce que Dieu il a voulu ça pour ma vie quand il y a des décès, quand il y a des situations difficiles. Moi-même, des fois, je dis à Dieu, écoute mon gars, tu... Mon gars, très drôle. Mon gars, je ne comprends pas très bien ce que tu me veux là, avec ce que tu m'envoies comme situation, comme émotion, comme défi pour moi. Dans cette situation-là, on est aussi face... à ça, en fait, à ce truc qui nous dépasse et qui nous arrive et qu'on ne peut pas expliquer. Et je ne pense pas que Dieu veuille, au sens où on parle d'intention humaine, la situation dans laquelle on est. Je crois pas à ce truc de... Parce qu'il y a aussi quelque chose d'assez toxique à prétendre que Dieu voudrait pour ta vie que tu perdes ton enfant, Dieu voudrait pour ta vie... Enfin,
mais
non.
Tout ça, c'est l'épreuve, justement, qui va te transformer et amener vers un bien meilleur. Mais... Parler de l'épreuve, là, l'autre fois. Ah, pardon, non, mais ouais, je ne crois pas à ça, mais enfin...
Ben, moi, je dis non. Je dis non, il y a une part d'inacceptable, et on doit aussi apprendre à accepter l'inacceptable. Peut-être qu'on n'y arrivera jamais non plus, et peut-être que c'est bien. Il y a une part de révolte, il y a une part de tragique, il y a une part d'ineffable, au sens qu'on ne peut pas décrire exactement ce qui se joue aussi. Il y a une part de mystère, et pour moi, ça fait aussi partie de Dieu. Mais quelque part, on est dans un... Enfin, si on doit un peu faire aussi des... Je ne sais pas comment dire, des stades... On ne peut pas prêcher ce qu'on est en train de dire à n'importe qui et dans n'importe quelle situation. Je pense que c'est dangereux de le faire dans certaines situations, mais je pense que quand on touche à certaines expériences où on est capable de nommer l'inacceptable, on peut... prendre ça en compte aussi, finalement. Et c'est pour ça que les textes de l'Ancien Testament sont fondamentaux. J'ai eu une grande discussion avec un catholique dernièrement qui me disait « Oui, mais bon, on a juste l'Ancien Testament pour comprendre d'où Jésus y vient, mais quand même le Nouveau, etc. » Je suis pas sûre que dans le Nouveau Testament... ce soit moins violent quelque part. Alors peut-être qu'on a tendance à lisser le discours du Nouveau Testament sur cette question de l'inacceptable, mais quand même, un Dieu qui envoie ses disciples prêcher la bonne parole et se ramasser des cailloux, je ne suis pas sûre que ce soit beaucoup plus acceptable que celui qui dit à Abraham « Hey, il faut que tu me sacrifies ton fils ». Peut-être qu'il y a des choses qu'on trouve plus inacceptables
que d'autres.
Voilà, on se dit oui, mais bon, les disciples, ils l'ont voulu, donc ils sont consentants, tandis que l'enfant est innocent. Oui, mais ça, c'est nos propres biais à nous. Donc voilà.
J'aimerais compléter, c'est une idée qui me vient maintenant, c'est qu'en fait, on a le droit de se révolter contre Dieu. En fait, quelque chose.
Oui, mais t'as lu le livre des Nombres ?
Non, mais on a le droit dans le sens où c'est une forme de nécessité aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que l'Ancien Testament est aussi assez intéressant. C'est parce qu'en fait, il ne cesse de lui échapper et en même temps de le challenger, on va dire. Et je pense que lorsque tu parlais de ces personnes qui viennent un peu t'interroger par rapport à ce Dieu inacceptable, ils sont dans une forme de révolte par rapport à ce que Dieu devrait être. Ils ont cette conscience qu'il y a une ambivalence de Dieu et de ceux qui le suivent, parce qu'au fond, ce sont des humains, donc évidemment, ils ne vont pas échapper aux affres de l'existence. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'il y a quelque chose qui est déjà... Là, on parlait aussi de la foi auparavant. Il y a déjà aussi quelque chose de l'ordre de la foi lorsqu'on se révolte contre Dieu, parce qu'on parle avec lui. On dit, mais au fond, moi, j'aurais attendu que le Dieu, il soit... iréniste, qui veut régler des problèmes. Ça renvoie aussi à ce qu'on appelle les théodicées, les défenses de Dieu. L'enjeu était toujours de dire, mais finalement, le mal justifie le bien, inversement. Enfin, il y a toujours une espèce de jeu, en fait, qui dirait que, voilà, un mal pour un bien justifierait l'ensemble du dispositif, on va dire, croyant. Et là, on est dans un paradoxe. Et en fait, ce paradoxe, malheureusement, heureusement, doit être maintenu. Dans une certaine mesure. Non, l'épreuve, non, tout ce qui est inacceptable ne peut pas être assimilé, ça restera quelque chose qui est difficile, heureusement. Et puis le domaine de la... Et le champ de la révolte peut s'ouvrir. Je pense que Jésus sur la croix, dans sa prière de l'abandon, ça peut être aussi interprété quelque part comme une révolte. Le pourquoi m'as-tu abandonné, c'est une prière. Mais ça montre aussi qu'il est toujours en lien. Enfin, il continue à prier malgré tout. Alors, au cœur même de la souffrance et de l'abandon, il continue à l'interpeller. Je pense que ça, c'est c'est aussi une dimension de la révolte. Et je pense que s'il reste plus grand-chose de cette relation à Dieu, il restera au moins ça, une forme d'interpellation sur l'inacceptabilité de le monde tel, du monde tel qu'il est. Et c'est peut-être un appel. C'est peut-être un appel. Et peut-être cet appel, il peut être transformant et nous donner la confiance suffisante, justement, pour faire des choses qui soient acceptables. pas sur le plan moral uniquement, mais surtout pour rendre ce monde à la mesure de l'humain, en fait, et de ce qu'il peut amener de juste.
Et pour faire le lien avec l'épisode précédent, moi, j'aurais envie de parler d'une des limites de la foi qu'on n'a pas vraiment abordée. C'est peut-être la question du mal. Parce que finalement, il n'a pas fallu beaucoup de siècles de philosophie, mais quand même, pour déterminer que finalement, le mal, ça reste un problème un peu insoluble, ce qu'on appelle une aporie. Et puis, enfin, un truc devant lequel qu'on a de la peine à appréhender, finalement, et auquel finalement la Bible nous invite aussi à avoir une pluralité de réponses. On n'a pas une réponse unilatérale sur le mal. Mmh. On a le Satan, on a les démons.
On a de la flotte.
On a Dieu qui envoie certaines choses, on a Dieu qui met à l'épreuve, on a Dieu qui répond à Job, qui es-tu pour dire ce que je suis en train de faire ou de ne pas faire ? Je me bats contre les forces du chaos à chaque seconde. Donc voilà, on a tout ce florilège-là de ces réponses-là. Et pour moi, c'est aussi le signe d'une profondeur énorme et d'une capacité aussi à nous inviter à accepter notre condition humaine qui est de ne pas avoir de réponse unilatérale. Et ça fait partie du tragique. Et peut-être qu'on est sombre, hein, on en revient au début de nos épisodes.
Tout au début. Ouais.
Mais en fait, il y a aussi une énorme joie à pouvoir accepter ça aussi, à apprendre à accepter ça, à se dépatouiller avec ça et de cultiver son humilité, sa capacité à s'émerveiller malgré les épreuves. Enfin, pour moi, c'est d'une puissance. Cette prise de conscience-là, énorme, en fait. Énorme.
Bon, je crois qu'on est mûr, gentiment, pour écouter les capsules et la question que j'ai posée à nos interlocuteurs. Pour cet épisode, j'ai demandé la voix de Benjamin Corba, qui est pasteur à Lausanne, dans l'église Martin Luther King, une église à thématique gospel, et puis à Joël Burry, qui est rédacteur en chef du mensuel Réformé, c'est le mensuel des églises réformées de Suisse romande, et je leur ai posé la question « Pour toi, qu'est-ce que ça change que Dieu existe ?» On les écoute.
Pour moi, qu'est-ce que ça change que Dieu existe ? Ou pas, j'aurais envie de rajouter, d'abord pour dire que le doute, il est inhérent à ma foi, je n'ai aucune certitude, je n'ai qu'une confiance, une foi qui est parfois vacillante, qui parfois est forte, solide, et parfois ancrée, parfois pas du tout. Je crois que c'est important de garder ce doute pour avancer dans notre foi. Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie, le fait que Dieu et existe pour moi, eh bien, ça m'a beaucoup aidé, notamment dans l'adolescence, à comprendre que j'étais aimé tel que j'étais, et pas comme d'autres auraient aimé que je sois. Et ça m'a aidé à d'autres moments de ma vie, des moments vraiment compliqués, où j'ai senti la présence de Dieu à mes côtés, où j'ai senti le soutien de ses anges qui m'ont relevé, où j'ai pu traverser des déserts grâce à lui, avec lui, par la force qui m'était donnée via lui, et notamment la prière. Donc finalement, ça change pas grand-chose au quotidien, mais ça change tout.
Pour moi, qu'est-ce que ça change que Dieu existe? Ma réponse va varier suivant la compréhension de la question. Si ce pour moi est à comprendre comme selon moi, alors je crois que ça change tout parce que je crois au Dieu créateur. Par contre, si ce pour moi est à comprendre comme à la différence d'autres humains, alors je crois que ça ne change rien. Adolescent et jeune adulte, j'ai fréquenté des paroisses qui insistaient beaucoup sur la justice de Dieu et en corollaire sur le principe de damnation et sur l'importance de la conversion individuelle. Et j'ai jamais été totalement raccord avec ce système. Mon passage en théologie, mon parcours de foi m'ont amené à découvrir que la Bible n'était pas aussi affirmative sur toutes sortes de choses que les textes vivaient en tension. Dans l'Ancien Testament, par exemple, on voit une tension entre l'idée que Dieu récompense les justes durant leur vie terrestre et l'autre qui dit que c'est plutôt dans une autre vie que la justice sera rendue. Peu à peu, moi, j'ai été amené à penser que Dieu couvre de son amour l'humanité entière et que le pardon est universel, ça me paraît bien plus juste. Enfin, si la question est « qu'est-ce que ça change que Dieu existe ou non ?», là aussi, je dirais rien. Si je vais au culte, si je lis la Bible, c'est pour me laisser interroger par une parole, par une prédication. Et nous sommes héritiers d'une tradition riche qui a été transmise de génération en génération. Et ça, cette richesse-là, ben, elle est là.
Merci à vous deux, Benjamin et Joël, pour cette entrée sur la question de « qu'est-ce que ça change que Dieu existe ?». En écho à ce qu'on a déjà discuté, j'entends un peu deux choses, moi, qui résonnent, en tout cas, par rapport à ces capsules. C'est que, d'une part, en tout cas, chez Benjamin, il y a quand même quelque chose qui semble être un moment de soutien, de confiance. Je peux rapporter ce mot « Dieu », en tout cas, c'est ce qu'il fait, c'est ce que tu proposes, à une expérience de soutien, une expérience de relèvement, quelque chose où... Face à la souffrance, je ne suis pas seul, je peux continuer d'avancer, je peux être. Et de l'autre côté, chez Joël, j'entends cette idée d'une... au fond, de quelque chose qui se divulgue dans la parole, au niveau de ce Dieu. Et donc, non pas dans une simple... pas simplement dans une pure présence... Et c'est ça aussi quelque chose avec lequel j'hésite beaucoup. C'est pas simplement un sentiment intérieur. Il existe, il est là. Il est toujours aussi lié à une extériorité qui prend la parole, qui me l'adresse, qui peut-être m'offre du sens, me questionne aussi sur tout un tas de choses, en fait, sur tout ce que je peux associer à ce mot Dieu. Pas que, mais quelque part avec les harmoniques qui viennent avec ce mot Dieu en termes de tout ce qu'on a déjà discuté juste avant, dans le rapport à l'abéance, dans la manière de pouvoir la remplir. Je trouve qu'il y a un rapport intéressant entre ces deux choses, hein, donc justement à la fois l'affirmation d'une présence et en même temps le fait qu'on n'en reste pas à la présence, il y a quelque chose qui est dynamisé au travers de la parole, quelque chose qui la met en mouvement et qui ne permet pas qu'elle se... Bon, c'est comme ça que je le comprends, en tout cas, qu'elle se clôture sur elle-même, cette présence-là. Et pourtant, elle y est. Et c'est pour ça que je reviens un peu sur... quelque chose en moi souffle le nom de Dieu. Rien que dans cette phrase, il y a pour moi à la fois la présence ce qui ne me permet pas de la capter, en fait. Il y a quelque chose qui m'empêche de capter la présence de Dieu, avec ou sans guillemets, là, pour le coup. En tout cas, dans la foi, du fait qu'il y a ce moment de la parole, donc d'une extériorité qui m'adresse quelque chose, que je ne peux pas me dire à moi-même. Si je reviens d'ailleurs aussi sur le « Dieu t'a choisi », enfin, je ne peux pas me le... Ben, peut-être que je peux me le dire, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. En tout cas, quand c'est quelque chose qui vient d'ailleurs... Un ailleurs qui peut-être est transcendant, mais un ailleurs qui est aussi très concret dans des paroles qui circulent, dans une communication qui circule.
Bah, je suis assez raccord avec les témoignages, en fait. L'idée que d'habiter la foi, c'est aussi un parcours de doute, et c'est quelque chose que je ne peux en tout cas imposer à personne. Je pense qu'en tout cas, l'intervention de Benjamin pour ça est très claire et représentative. Et elle est douce aussi, parce qu'en fait... je ne peux que témoigner de ce que la foi a eu comme effet dans ma vie, et notamment dans des phases de développement plus aiguës, on va dire. De l'adolescence, c'est vrai que c'est des moments clés de la construction de soi. Et là, on voit que vraiment, la foi, quelque part, déjà justifie un cheminement qui serait pas celui en fait qui serait systématiquement attendu. Et peut-être que là il y a quelque chose d'intéressant dans cette posture que nous, de la foi notamment, c'est qu'elle est devenue originale en fait.
Originale, c'est-à-dire
au vu de la sécularisation de la société, ce parcours même voilà qui a été relaté ici et que nous dont nous parlons a sa propre originalité dans le sens où, où ça reste inattendu. Y a quand même l'idée sous-jacente que la spiritualité s'est largement décloisonnée, qu'on a beaucoup de possibilités, de choix, d'horizons, qu'en fait rien ne pèse sur nous pour faire un choix plutôt qu'un autre quelque part, en tout cas beaucoup moins qu'auparavant. Et c'est vrai que je ne sais pas si ça vous est arrivé, alors ça dépend d'où vous venez, bien sûr, mais lorsque moi-même j'ai choisi la théologie, ça a surpris. D'où ça vient. Parce que oui, j'avais des racines protestantes du côté de ma mère, mais elles n'ont jamais été vraiment, comment dire, revendiquées avec, voilà, de manière à ce que moi j'en sois.
Chez moi, c'est plutôt la surprise que j'y sois encore.
Voilà, exactement. Et du coup, c'est ça, c'est par rapport à ces deux prises de parole, c'est ça qui me vient à l'esprit, c'est que vraiment... ce choix-là, alors on disait que c'est quelque chose qui nous advient, et... mais là en l'occurrence, le fait que Dieu existe et qu'en l'occurrence j'ai une relation, que j'ai intronisé une relation avec lui, est un petit peu un chemin à contre-courant, dans lequel bien sûr je vais ensuite me retrouver dans des communautés qui partagent en fait cet horizon-là, mais on est tous conscients. On est tous conscients, quelque part, oui, qu'en fait, on devient de plus en plus rare, en tout cas, que ça devient une rareté, et on est de plus en plus entraîné à en dire quelque chose.
De la rareté ?
De cette rareté, et du coup, de cette originalité, entre guillemets, de pouvoir répondre, en fait, de cette foi. On est toujours plus en situation de se justifier avec la foi. Parce qu'en fait, l'extérieur est une... c'est ce que disait aussi Charles Taylor quand il dit qu'il parle d'une forteresse de la foi. C'est-à-dire qu'en fait, on est un peu sous pression. Et on a toujours en nous... Enfin, voilà ce que disait aussi Benjamin, cette figure, le doute, le fait que nous assumions en fait, ces dimensions en fait, très humaines de cette quête. Et en fait... C'est comme si on avait toujours cette double conscience que pour beaucoup de personnes, et c'est tout à fait respectable, Dieu n'existe pas. Ou alors, il est sujet de révolte, ou alors il n'existe tout simplement pas, et c'est plus une question. On est parfois même confronté à une forme de post-sécularisation, c'est-à-dire qu'il y a un après de la sécularisation, c'est-à-dire qu'en fait, les personnes n'ont même plus un rapport religieux qui serait même culturel. Ça aussi, c'est une nouvelle chose.
C'est juste un lieu vide, quoi. Enfin,
c'est qu'en fait,
associé à rien, quoi.
Oui, et puis c'est pas un problème en soi. C'est juste une évolution de la société. Et en fait, même Moïse, en fait, n'est plus une figure qui fait partie de la culture au même titre que d'autres figures. Et ça, on peut le constater, que vraiment, ça a disparu du champ de plus en plus.
Et c'est ça qui fait qu'on doit peut-être aussi... la question de la rénovation du langage, le questionnement, il est aussi dans... on a des fois l'impression... Enfin, moi, ça m'arrive d'avoir l'impression de... Avec les discours tout faits qu'on se répète... dans l'Église réformée, depuis la Réforme, en se situant dans des controverses qui ne concernent plus personne, aujourd'hui, on a des fois l'impression de poser une question à laquelle les gens ne partagent pas, en fait, cette question-là. Et d'arriver avec une réponse à une question que les gens ne se posent plus, voilà, plutôt dans ce sens-là. Et... De ce côté-là, je pense qu'il faut qu'on, plus que finalement le langage lui-même, c'est d'apprendre à reposer la question autrement. qu'est-ce que c'est notre Dieu finalement? Qu'est-ce qu'on dit quand on parle de Dieu? Et je suis pas sûre qu'on dise la même chose maintenant qu'au XVIe siècle.
C'est à peu près. Enfin, ça se recoupe pas en tout cas, ça c'est sûr.
Ça se recoupe peut-être, mais ça n'est pas complètement équivalent, assez certainement. Et du coup, des fois, j'ai l'impression que la perplexité auquel l'Église, à laquelle l'Église fait face dans son identité, dans son rapport à elle-même, etc., c'est peut-être aussi un peu le fruit de ces questionnements-là. Et moi, les témoignages qu'on a entendus, finalement, ils m'invitent aussi à ça, dans le sens où à ne jamais oublier que le mot Dieu et ce qu'on met derrière Dieu provient d'une histoire, d'une histoire personnelle, d'une histoire située dans un contexte. Voilà, on était face à un pasteur qui a grandi avec la foi, qui a évolué là-dedans, qui s'est situé en tant qu'adolescent, en tant que jeune homme, avec la foi. On était face aussi à quelqu'un qui a grandi dans une certaine tradition du côté de Joël, c'est ça, qui a dû se situer par rapport à cette tradition-là, qui a peut-être rejeté une partie d'un certain bagage, pris ses distances, réorienté, et en même temps qui dit je me reconnais quand même dans cette tradition-là. Et en fait, ça c'est hyper précieux. Je pense probablement que c'est plus exigeant, ça va un petit peu dans ce que tu disais, Dimitri, c'est plus exigeant aujourd'hui de se poser la question de Dieu, de parler de foi, d'évoluer dans un contexte de foi, parce que ça demande d'aller au fond, en tout cas pour un bout, de son histoire, de qui on est, de qu'est-ce qu'on projette. Là où peut-être, dans un certain contexte, ça aussi c'est du Taylor, c'était plus évident. C'était la norme. Et finalement, c'était plutôt s'extraire de cette norme et poser un doute qui était mille fois plus difficile. Alors que pour nous, c'est...
C'est pas ça qui est difficile du tout.
Enfin, je veux dire, la société, pour tourner, elle n'a pas besoin de Dieu. Elle n'a plus besoin du mot. Des fois, on est un petit peu embarrassé. Moi, ça me fait toujours rire dans les mariages laïques, dans les cérémonies solennelles du côté de la politique, la sermentation, tous ces phénomènes-là où on voit bien qu'il y a un reste de trucs, de transcendance, de rituel, de machin qui n'est compréhensible que si tu prends en compte l'histoire chrétienne. Mais en fait, c'est juste un reste.
C'est muséal comme type de truc, quoi.
Je sais pas, parce que finalement, il y a... Enfin, en tout cas, dans certains contextes, on rencontre une quantité de gens qui sont encore émus par ce genre de choses.
Oui, c'est vrai.
Voilà, moi, je suis aumônière à l'armée. Il y a plein de gens à l'armée qui ont confusément... un sens de la verticalité, un sens du rite, un sens de quelque chose d'une transcendance ou de quelque chose de plus d'un horizon, que ce soit la patrie, que ce soit une véritable transcendance, quelque chose de plus, quoi. Et finalement, ça crée une parenté avec la tradition qu'on porte, parce que notre tradition a porté ces discours-là. Et elle a influencé ces discours-là aussi autour de la patrie, autour des rites, etc. Donc c'est bel et bien que ça se mélange, ces enjeux-là.
Et en même temps, il y a justement, au-delà de la simple trace ou de l'héritage, il y a la possibilité maintenant de revenir à cette voie originale que tu as décrite. Enfin, ça, c'est quand même peut-être quelque chose d'un peu inédit actuellement, qu'on ait cette possibilité-là d'accueillir, d'entendre une multiplicité de récits, de manière de s'approprier un héritage, une tradition, un chemin de doute. C'est sans doute lié à quelque chose d'un individualisme qui joue un rôle hein, dans nos sociétés énormes, mais qui ouvre cette possibilité en fait d'une infinité de manières de mettre en récit ce Dieu, qui sont aussi en fait des alternatives par rapport aux récits reçus, aux pratiques reçues, des alternatives, mais qui n'ont pas non plus besoin d'être en rupture totale. Enfin, il y a quelque chose d'une reprise possible de l'héritage qui n'est pas simplement sa répétition pure et simple ou automatisée.
Oui, je ouais. pense à cette citation de Delphine Horviller, je crois, qui disait que pour être fidèle, pour demeurer fidèle à sa tradition, il faut parfois lui être infidèle. Et c'est cet enjeu aussi de rester vivant et de... d'assumer, et aussi pour nous-mêmes, des fois je pense que l'Église a tendance à se penser elle-même comme un reliquat de quelque chose, et de dire, bah non, en fait, je suis pas juste un reliquat, je suis vivant et je témoigne de quelque chose. Et il y a cet enjeu-là.
Je pense qu'on arrive gentiment au bout de ce Dieu inacceptable, et puis de l'acceptabilité de tout, même de tout ce que supposent les discussions qu'on est en train d'avoir. Dimitri, ce sera à toi de nous offrir une impulsion pour cet avant-dernier épisode, avant qu'on se dirige vers notre ligne d'atterrissage. À toi aussi, bien du courage.
Voilà, donc on a traité du Dieu inacceptable, et ça nous a renvoyé en fait vers un élargissement de notre conception de Dieu quelque part, puisqu'en fait il y a quelque chose qui résiste, quelque chose qui reste inacceptable dans ce que Dieu peut être à nous dire, ou ce qu'il signifie. Et de manière encore plus large, ça nous renvoie à l'idée du nom de Dieu, avec le sous-jacent que Dieu aurait plusieurs noms. En fait, nous aurions plusieurs manières de l'interpeller, qu'il n'y a pas que Dieu, qu'il y a Dieu lui-même, ce sera toujours lui, il est égal à lui-même, mais il ne se présente pas à nous comme une unité absolue, comme un tout qu'on pourrait appréhender, mais sous de multiples dimensions, sous de multiples visages et de noms. Donc je vous exhorte à vous demander comment vous appelez.
Tu nous exhortes à nous demander comment nous appelons Dieu. Très bien, je répète la consigne. Alors, bonne méditation à vous jusqu'au prochain épisode. Et puis, n'hésitez pas à nous dire en commentaire la solution, ou pas la solution, mais le mot auquel vous arrivez avec cette consigne. Et surtout, partagez cet épisode si ça vous a intéressé, si ça vous a stimulé, ça nous aide à sortir du lot dans les algorithmes. Et puis on se réjouit de vous retrouver pour l'épisode final de cette deuxième saison. À tout bientôt, ciao ciao.